Ici c'est Lève. Voici Catherine Gaudreau.
Bon, une fois que ça c'est dit, dossier hier, ça a été toute une journée. D'ailleurs, on va recevoir, puis je le remercie d'être là dans 7-8 minutes, le fils de François Lefebvre qui s'est adressé d'ailleurs à François Asselin directement.
Oui, ouais, c'est la première fois qu'il avait la chance de le faire.
Exact. Parle-nous donc de ce qui s'est passé hier.
Hier, c'était les représentations sur sentence dans le dossier de François Asselin qui a été reconnu coupable il y a quelques semaines, à la fin du mois de juin, de 2 meurtres au deuxième degré et de 2 outrages à un cadavre. On se souvient les événements qui remontent à 2018 dans son cas, alors qu'il a, bon, d'abord commencé par tuer son père ici à Trois-Rivières. Une dizaine de jours plus tard, il a tué son collègue de travail, François Lefebvre, qui lui avait été mis dans une boîte et abandonné sur le tarmac de l'entreprise, sur la plateforme de l'entreprise pour laquelle il travaillait du côté de Sherbrooke. Lui a été reconnu coupable donc par le jury au cours des dernières semaines de ces 2 meurtres-là. Maintenant, ce qui reste à déterminer, parce que quand tu obtiens prison, quand tu es condamné pour meurtre, c'est prison à vie automatiquement. Mm-hmm. Mais là, c'est de savoir combien de temps est-ce que François Asselin va devoir purger derrière les barreaux avant d'être admissible à une libération conditionnelle. Et c'est à cette étape-là qu'on a la chance, dans le cas de la famille des victimes, de se faire entendre et de s'adresser à la juge et s'adresser à l'accusé par le fait même pour faire part de ses états d'esprit. Et hier, toute la famille était présente, autant dans le cas de François Lefebvre que dans le cas de Gilles Giasson. Gilles Giasson qui est le père de François Asselin. Donc, c'est la famille également de François Asselin qui était présente. Il faut dire que les tantes, notamment de François Asselin, lui ont lu une lettre assez particulière, puis avec beaucoup d'émotion là, dans le cas de tout le monde, parce que Lucille Giasson, qui est la sœur de Gilles, son père, elle lui a adressé quelques mots en lui disant « Je veux que tu saches que je suis profondément déçu que tu fasses appel du verdict. Ça fait que démontrer ta personnalité narcissique et égoïste, ça reflète ton manque d'empathie face à la souffrance des autres. » Mais par la suite, elle a quand même mentionné certains mots en disant « J'accepte de te pardonner pour ce que tu nous as fait vivre. Je vais continuer de prier pour toi. Bon courage. » C'est toujours particulier et frappant d'entendre ça, ces témoignages-là. Par contre, bon, il y en a pour qui c'est beaucoup plus difficile de pardonner à François Asselin. Isabelle Neveu, qui est la fille de Gilles Giasson et la demi-sœur de François Asselin, qui est venue témoigner de son côté en disant « Je m'ennuie de mon père tous les jours, mais je m'ennuie de mon frère aussi. T'es mon frère dans mon cœur, mais dans ma tête, t'es le meurtrier de mon père. Je vais toujours t'aimer, mais je veux pas que tu sortes. T'es un danger pour le public, un danger pour toi-même, un danger pour nous. Bonne chance, François. » C'est des témoignages qui sont marquants, qui sont frappants. Puis dans le cas de Nicolas Lefebvre, à qui on va parler dans quelques minutes, le fils de François, tu sais, quand il parlait de la relation, lui, avec son père, à quel point c'est important pour lui. Puis j'ai jasé avant de rentrer dans la salle de cours hier, puis il me disait, j'avais même pas le goût d'être ici. Puis j'avais parlé, quand j'étais remplacé cet été, quand François Asselin a annoncé qu'il portait le verdict en appel, il dit, sincèrement, ils ont été un peu découragés de voir que ça aboutit pas. Ça aboutit pas dans ce cas-ci. Puis là, ce que la famille veut, c'est passer à d'autres choses. Et la sœur de Nicolas était présente aussi. Et dans le cas de Nicolas et sa sœur, ils ont dit, on sera jamais capable de te pardonner. Puis tu pourras parler de ça aussi avec Nicolas tantôt. Ouais. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est quand il a mentionné les dernières choses qu'il avait dites à son père. Il a dit à son père, puis il l'a raconté, et il s'est tourné vers François Asselin en le regardant et lui en disant « Je t'en veux, François, parce que la dernière chose que j'ai dite à mon père, c'est « Va donc chier », parce qu'il pouvait pas venir m'aider le lendemain avec mon entreprise, mais ce que j'aurais aimé lui dire, c'est « Je t'aime, papa, t'es une petite bonne personne. »
Absolument. Alors, c'est sûr qu'on va aller là avec lui dans les prochaines minutes. Dans cette affaire, si on laisse de côté un peu les témoignages, Alexis, le procureur de la Couronne, Maître Benoît Larouche, réclame que la période d'admissibilité à la libération conditionnelle se situe à 22 ans, alors que du côté de la défense, c'est entre 10 à 15 ans. Oui. Alors, il y a ça aussi là, dans toutes ces procédures-là.
Et c'est complexe parce que, puis on s'en va tranquillement, pas vite aussi, vers tout ce qui est législatif et très complexe dans toute cette affaire-là.
Exact.
Il y a le cumul des peines. Ça avait été passé par les conservateurs il y a cela quelques années. Donc, désormais, les juges peuvent mettre bout à bout des sentences. Avant, ce qu'on faisait, un peu comme dans ce cas-ci, là, pour vous donner une idée, meurtre deuxième degré, c'est 10 ans, normalement, avant de pouvoir demander la libération conditionnelle. Outrage à un cadavre, c'est 5. Donc, si on multiplie tout, on a 10, 10, 5, 5. On arrive à 30. Donc, ça, la juge aurait pu normalement dire, bien, je rends 30 ans. Mais là, maintenant, c'est pour ça que la défense, elle demande 10 ans. C'est-à-dire que 5, 5, 10, 10, on plaide, puis ça va tout se passer en même temps. Donc, au bout, ça va être 10 ans. Alors que du côté de la couronne, on dit, bien, OK, les deux 10 en même temps, mais les 5 bout à bout, donc on arrive à 20.
Oui.
Parce que ça nous mène à toute l'affaire Alexandre Bissonnette.
Exact, et c'est là où tu veux aller, là. Il y a un lien à faire avec cette affaire-là.
On n'a pas le choix de revenir vers l'affaire Alexandre Bissonnette parce que là, la juge de première instance en Cour supérieure, on a dit, bon, on donne 40 ans. C'est le juge François Huot qui avait été un peu provocateur à ce moment-là parce que normalement, c'est 25 ans pour meurtre prémédité.
Ouais.
Il aurait pu dire, ben, je prends deux meurtres prémédités, ça donne 50. Lui, il a décidé de couper en deux. À 40. C'était un peu provocateur. Ça s'est ramassé devant la Cour d'appel.
Ouais.
La Cour d'appel a dit c'est jugé inconstitutionnel. Au Québec, pas au Canada.
Exact.
Là, au Canada, et ça s'applique donc par le fait même aussi au Québec, on se ramasse devant la Cour supérieure, la Cour suprême. La Cour suprême a décidé d'entendre la cause Alexandre Bissonnette, mais on n'a toujours pas rendu de jugement jusqu'à maintenant. Et là, ça fait en sorte qu'on se ramasse un peu comme dans un cul-de-sac. Parce que hier, la juge en salle de cour, dans le cas de François Asselin, se disait, ben moi, pour l'instant, je suis pas mal lié par le jugement de la Cour d'appel.
Ben oui.
Mais là, on attend le verdict de la Cour suprême. Là. Donc là, il se passe quoi entre les deux? Hier, j'ai jasé avec l'avocat criminaliste, Maître François-David Bernier.
Oui.
Lui, il me disait, moi, à mon sens, là, dans ce cas-ci, on n'a pas trop le choix d'attendre. La juge ne peut pas rendre une décision tout de suite. Là.
Le juge de la Cour supérieure qui entend ça n'a pas le choix de mettre ça sur la glace parce que pourra pas de rendre de décision. On met ça en suspens en attendant de savoir qu'est-ce que la Cour suprême va décider, à savoir si c'est constitutionnel ou pas. Mais on sait qu'il n'y a pas de presse hein, parce que de toute façon, c'est des sentences de prison à vie. C'est le moment pour déterminer à quand on peut demander la libération conditionnelle. Donc, pour ces dossiers-là, même pour François Asselin, peu importe ce qui se passe, ce sera un minimum de 10 ans avant de demander cette libération-là.
Mais effectivement, Maître Bernier a raison. C'est-à-dire que comme c'est sentence à vie, ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Là. C'est le 15, 10, 20, 30 dont il est question, c'est avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. La sentence reste à vie quand
exact,
même.
C'est
là.
Ça ne change pas la sentence.
Donc, d'ici les 10 prochaines années, s'il n'y a pas de jugement qui est rendu, ce ne serait pas grave. Mais c'est parce que là, la juge hier, là aujourd'hui, ça se poursuit. La raison pour laquelle je vous dis, je ne le sais pas quand la juge va rendre sa décision. Probablement qu'à la fin des plaidoiries, à la fin des témoignages, aujourd'hui, normalement, la juge devrait potentiellement faire connaître ses intentions, en tout cas dans le moment où elle pense peut-être rendre une décision. Mais ce que Maître Bernier me disait par la suite, c'est « mettons qu'elle décide de rendre une décision, là, c'est pas dit qu'on reviendrait pas en cours là, après. Là. »
Si un juge va plus loin, il pourrait peut-être prendre la décision puis dire on verra si la Cour suprême rend ça inconstitutionnel ou l'invalide. Mais dépendamment de ce qui est dit en Cour suprême, peut-être qu'il va avoir lieu de retourner plaider. Là. En mettant des critères peut-être particuliers, il va peut-être falloir revenir. Il y a peut-être des éléments là, qu'en ce moment, on ne sait pas que la Cour suprême va mettre comme balise. Là.
Donc là,
c'est
tu
complexe,
dis...
Là.
Ben, c'est complexe, certain.
Donc, ça va être long.
Ben, ça va être... Honnêtement, dans ce dossier-là, je vois pas comment ça peut être court. Parce que là, la juge, elle, se disait liée par le jugement de la Cour d'appel.
Ouais.
Si la Cour suprême dit non, c'est constitutionnel d'ajouter et d'additionner des peines, clairement que la couronne va s'adresser à la juge en disant, ben, va falloir replaider pour la sentence, à savoir combien de temps il va devoir en faire. Mais là, on n'a toujours pas parlé de la demande d'appel qui a été déposée par la défense il y a déjà quelques semaines, au moment où le verdict de culpabilité était rendu, parce qu'eux ont déjà porté en appel, pas la sentence, le verdict. Et le verdict, ça ne veut pas dire juste revenir plaider sur la sentence, ça veut dire refaire le procès au complet, parce que les avocats d'Asselin ont dit « OK, c'est beau, on n'a pas retenu la défense de troubles mentaux, mais on aurait quand même dû tenir compte de l'état mental d'Asselin à travers le procès.
Ouais. »
Fait que moi, sincèrement, là, je suis découragé pour la famille et pour les procédures. C'est pas fini.
Non, c'est pas fini. Je sais que Nicolas est déjà en bout de ligne. Alors, on va faire une courte pause entre les deux, mais en effet, nos pensées sont vraiment envers la famille. C'est tout un processus.
Ah, vraiment,
déjà que c'est extrêmement pénible et difficile. Là. Je vais vous dire que ça vous prend beaucoup de courage, puis je vous salue là-dessus. Merci, Alexis, de nous avoir expliqué tout ça, parce que ça non plus, c'est pas facile à faire.
C'est complexe,
c'est complexe.
Je pense que ça mérite qu'on le comprenne.
Oui, exactement. C'est super bien fait. Merci, Alexis. On se reparle. De toute façon, demain, on te retrouve, entre autres, pour le Qui a dit ça.
Oui.
Ça, c'est sûr.
Sur une note plus légère, cette
fois-ci.
Et voilà.
Merci, Alexis. À bientôt.